There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans le 15e épisode de Channel Random. Alain Maté, très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de notre émission bimensuelle. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut à tous.
Bonjour Raphaël, et nous avons un invité cette semaine. Il est en provenance directement de Louisiane. New Orleans directement d'ailleurs, je spoil la voix de l'invité.
Alors, j'habite à 40 miles, à 60 km au sud de la Nouvelle-Orléans, donc en mi-chemin entre la Nouvelle-Orléans et le golfe du Mexique, donc on est à la campagne.
Et pour les habitués de BNews USA, vous avez donc reconnu sa voix, c'est Patrice qui est avec nous toutes les semaines avec Stéphane. Tu dégustes une bière à l'antenne, vous en êtes à l'épisode 130 au moment où on se parle, donc là il y a du gros niveau de bière, ça va être impossible de te coller sur les bières américaines si j'ai bien compris.
Oh si, ça doit pouvoir se faire, oui, parce qu'il y a tellement de... Je crois qu'il y a 7000 brasseries, donc je les connais pas toutes. Non, alors, tu peux y aller.
Mais alors du coup, c'est quoi la consommation de bière à peu près? Moi, je me renseigne à chaque fois sur... Alors, sans vouloir dénoncer ou quoi, hein, mais c'est combien de bières par semaine pour animer BNews USA?
C'est-à-dire dans l'émission ou hors micro?
Bah, hors micro, parce qu'il faut travailler au quotidien, je veux dire.
Bah, c'est un entraînement, hein. ça s'improvise pas.
Et oui. C'est ça.
Et en plus, culturellement, ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, quand je vais voir mes parents en France, je bois une bière, très bien. Mon père boit de la bière aussi. Et si je m'en resserre une deuxième, ma mère me dit, dis donc, tu bois beaucoup de bière.
Ouais. Mais on va en parler, tiens, ça, de la différence culturelle au niveau des bières. Vous l'avez donc compris, Patrice est avec nous pour parler bière. C'est le volume 2, puisqu'on avait fait « Faut-il prendre, boire de la bière » dans le deuxième épisode, je crois, de Channel Random à l'époque.
Qui a été un grand succès, vu que tu t'es mis à la bière depuis.
Avouer. C'est aussi pour ça qu'on en refait une. C'est qu'à l'époque, il faut le dire, j'avais jamais bu une bière entière de ma vie. J'avais jamais descendu 33 centilitres de bière à moi tout seul. Et au moment où on se parle, j'ai mon téléphone à côté de moi, j'ai installé l'appli Untappd. Sur les conseils de mon caviste, et je crois, je vais vérifier, mais je crois que j'en suis à une trentaine, quelque chose comme ça, une petite trentaine,
plus
quelques bières en bar, même si les bars n'ont pas été très ouverts en plus depuis la dernière émission, mais voilà, j'en suis à peu près là, donc je vais pouvoir parler un peu plus, 32, voilà, je viens de vérifier, donc 32, je vais pouvoir un tout petit peu plus prendre part à la discussion cette fois, petit générique, et puis on lance les hostilités, messieurs. Bon, je vais avouer, j'ai été feignant, j'ai repris le même générique que la dernière fois parce qu'il est super bien.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière.
Évidemment, la bière de Jacques Brel, qui va peut-être nous coûter un strike sur Spotify ou YouTube, je ne sais plus, depuis la dernière émission, c'est peut-être plus autorisé maintenant.
C'est bien possible.
Oui, voilà, je sais que vous y avez goûté, Patrice, je crois, avec Spotify. Hein.
Ah bah on n'est plus sur Spotify, à part sur le flux Podcut, il y a un petit, il y a moyenné, il y a une petite astuce, il faut aller sur le flux Podcut, et on est dedans, nos derniers épisodes sont un petit peu clairsemés parmi tous les autres podcasts du label. Voilà, donc c'est la seule façon de nous avoir sur Spotify, malheureusement pour l'instant. Bon voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que pour l'instant Spotify n'est pas mon ami. Voilà, mais je ne vais pas en dire plus. J'aimerais bien qu'il me donne une réponse claire, ça serait sympa pour qu'on puisse avancer. Mais bon voilà, je suis dans l'expectative, un petit peu comme le président américain en ce moment.
Bon, évidemment, vous trouvez BNews USA sur toutes les autres plateformes. Et on vous recommande chaudement l'écoute de Binous USA. Mais c'est vrai que le monde du podcast est impitoyable en ce moment. C'est un autre sujet. Avant, on était tranquille, on faisait ce qu'on voulait. Et puis maintenant, il y a tout le monde qui met plein de règles de partout. Patrice, on revient au sujet de la bière. C'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. La première question est très simple et volontairement très orientée. Est-ce que les Américains ne boivent que des mauvaises bières ?
Eh bien, bien sûr que non. Sinon, sinon on ne ferait pas Binous USA. On ne boirait pas de la Bud Light toutes les semaines. Ça n'aurait aucun intérêt. Et justement, une des missions de notre podcast, c'est de faire découvrir le monde de la bière américaine qui est très méconnu en France et en Europe plus généralement. La plupart des gens s'imaginent qu'ici, ils boivent que de la Bud Light et de la Budweiser et de la Coors Light. Eh bien, c'est pas vrai. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui boivent ça, qui sont bloqués là-dessus. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine. Mais il y a, depuis les années 80, une explosion exponentielle de brasseries indépendantes et artisanal ici, et je crois qu'on en est à 7000 brasseries, j'ai envie de dire. Je pense que c'est à peu près ça, et c'est absolument fantastique. Chaque état, mais chaque ville certaine importance a 1, 2, 3, 4, 5 brasseries. À Nouvelle-Orléans, je sais plus, j'ai arrêté de compter, on doit en être à 7 ou 8. En plus, en Louisiane, on a beaucoup de chance parce qu'on a une scène de bière artisanale qui est absolument fantastique. Il y a un niveau de bière artisanale ici qui est extrêmement, extrêmement élevé. Donc, on a beaucoup de chance. On parlera tout à l'heure apparemment de notre top 3 des bières. Et vous verrez que la Louisiane a une grosse place dans ce top 3.
Mais alors, pourquoi ils ont cette image-là ? Pourquoi, pour être vulgaire, Raphaël, tu me dis, tu connais mieux, mais... Si t'es en France, en général, tu dis la bière US, c'est de la pisse. Je suis vulgaire.
Ouais, non, mais après, je dirais qu'effectivement, c'est l'image qu'a longtemps eu la bière américaine, en tout cas en France, et qu'elle a encore d'ailleurs auprès du grand public qui n'est pas amateur de bière. Parce qu'en fait, justement, quand tu commences à t'intéresser vraiment à la bière, et de mémoire, on en avait un tout petit peu parlé avec Camille lors du deuxième épisode, mais moi, ça a été la grande révélation, la scène américaine, quand je me suis vraiment... intéressé à la bière et que j'ai dépassé la bière belge, on va dire, parce que en général tu fais d'abord bière française, puis tu découvres un peu la bière belge, puis après tu vas plus loin et tu découvres autre chose. Et quand tu te mets à découvrir toutes les bières américaines qui arrivent en France et toutes les brasseries françaises inspirées par la scène américaine, tu te rends compte que justement la bière américaine, ce n'est pas que ça. Mais c'est vrai que par contre, si tu demandes au grand public, moi je demande à des connaissances qui s'y intéressent pas, je leur dis une bière américaine, tout le monde a Bud en tête, et puis c'est tout, quoi.
Juste pour revenir sur la culture, Patrice, avant d'attaquer vraiment les microbrasseries, l'artisanal, tu disais que justement quand tu rentrais en France, le regard n'était pas le même. C'est moi où il y a plus le réflexe bière aux États-Unis qu'en France. J'ai l'impression que quand je regarde une série, c'est toujours tu prends une bière, oui, tu prends une bière, oui.
Bien sûr. Tout le temps, vous faites en parallèle, vous avez un podcast football américain tous les dimanches. On va avec mon épouse, on va chez mes beaux-parents, on regarde le match des Saints. Parce que mes beaux-parents sont fans des Saints depuis le début de la franchise, dans les années 60, je crois. Donc mon épouse est née dedans, elle a grandi dedans, elle est tombée dedans quand elle était petite. Et tous les dimanches, on achète un pack de 12 pour deux personnes, et moi j'ai un pack de 6. Enfin, c'est comme ça que ça marche, et c'est logique, ça fait partie de... On a des énormes glacières, on va au supermarché, grosse glacière, on met des packs de 12 dedans, on met de la glace qu'on achète également... au supermarché, tu ouvres ta glacière, tu mets les bières que tu viens d'acheter, tu balances la glace et hop, on est parti, on va regarder, on va faire du tailgating, on va regarder le match, et ça se passe comme ça. On boit toute la journée de la bière, c'est absolument inscrit dans la culture. Et en plus, en Louisiane, qui a une longue tradition de faire la fête, etc., Mardi Gras, la Louisiane d'ailleurs, la Nouvelle-Orléans est une des seules villes aux États-Unis où on peut se balader dans la rue avec une boisson alcoolisée dans la main. Ça, c'est absolument interdit partout ailleurs. Et tu peux te balader dans le quartier français avec une bière à la main, et tu peux arrêter un policier pour lui demander comment est-ce que je vais à tel endroit et tout. Les policiers, t'as ta bière dans la main et ça pose aucun problème. Ça, oui, ça fait rêver le reste de l'Amérique, ça.
Oui, c'est dingue d'ailleurs que tu doives toujours te balader avec un sac en papier pour boire quelque chose aux États-Unis.
Absolument.
Mais c'est un autre sujet. Pour revenir donc sur les microbrasseries, l'artisanal, pour faire un petit historique, donc c'est très très dynamique, tu l'as dit. En 1978, parce qu'il y a quand même eu la prohibition aux États-Unis à une époque, en 1978, Jimmy Carter a fait passer une loi qui autorise autorisait les gens à produire de l'alcool à la maison, ce qui était interdit depuis la prohibition, ce qui a permis à des gens de se lancer un petit peu. Et en fait, l'explosion derrière, c'est en 82 et 83 où certains États ont commencé à légaliser ce qu'on appelle les brewpubs. Et derrière, ça a lancé le mouvement donc, dont tu parles, où on explose avec 7000 brasseries et énormément de bières artisanales disponibles aux États-Unis. Aujourd'hui, qui boit des bières artisanales ? Parce que tu parlais donc du tailgate, des matchs, etc. On a souvent l'impression justement que c'est les Bud Light dans une glacière, etc. Donc qui boit des bières artisanales ? Aujourd'hui, il y a un public particulier ou c'est des amateurs ou c'est tout le monde ?
Alors, avant de répondre à cette question, je voulais revenir juste sur la prohibition. La prohibition a fait énormément de mal, évidemment, au marché de la bière. A fait fermer, mais la plupart, parce que avant la prohibition, il y avait une multitude de brasseries aux États-Unis, et la prohibition a fait que la plupart de ces compagnies-là ont complètement fait faillite. Mmh. Certaines ont survécu en vendant de la glace, en vendant du genre du soda, etc., pour pouvoir un petit peu survivre. Et puis après, ils ont pu refaire de la bière. Mais donc ça, bien évidemment. Ça fait faillite beaucoup de compagnies. Mais pour répondre à ta question, dans les années 80, ça a commencé vraiment à être un petit milieu, quelque chose d'assez qui était pas vraiment connu du commun des mortels. Et puis petit à petit, ça a commencé à faire boule de neige. Et maintenant, je le vois, je vois des gens de mon entourage qui avant buvaient de la Miller Lite, qui buvaient de la Bud Light, etc., évidemment des bières qui sont pas vraiment beaucoup de goût, se mettre petit à petit. Il y a vraiment un mouvement, et puis nous on est dans les campagnes, donc ça arrive un peu plus tard que dans les villes. Je vois un mouvement ces dernières années de gens de mon entourage qui se mettent à la bière artisanale, et les rayons des supermarchés évidemment qui explosent avec des bières de partout des États-Unis, et surtout des bières locales. Et donc je vois cette espèce, ça arrive, ça fait 3-4 ans que vraiment ça commence vraiment à avoir un engouement comme ça. Il y a des brasseries artisanales ici qui sont très très connues, et ils font des événements où ils font des sorties de bières spéciales. Alors il faut les acheter, il faut acheter en ligne, pré-acheter en ligne, c'est la foire d'Empoigne, c'est un truc de fou. Et les gens font la queue, enfin c'est absolument, il y a presque un marché noir parallèle.
C'est pire que des baskets.
Ouais, c'est la même chose que, ouais, c'est pareil que les sneakers. Donc il y a vraiment ces quelques dernières années, il y a eu une explosion de ça. Je le vois au quotidien. Même Walmart maintenant, donc c'est la plus grande chaîne de supermarchés américaine, commence à vendre des bières craft locales. Et puis s'ils en vendent, c'est que ça s'achète. On en voit même dans les dans les stations-service ici, ça se trouve des bières. Alors on peut trouver par exemple la Sierra Nevada Pale Ale, ça fait un moment qu'on trouve ça. Et on trouve évidemment des tas de bières locales qui sont absolument fantastiques. D'ailleurs, je vais m'en offrir une dans une seconde parce que j'ai soif.
Ah, mais alors, c'est ce qu'on se disait avec Raphaël avant l'émission. On se disait, on a fauté, on aurait dû prévoir des bières à boire en même temps, parce que c'est quand même. On reçoit Binous USA et on n'a même pas une bière à boire avec lui.
Oh, à la alors, fameuse.
C'est Ghost. Hop là, Ghost in the Machine.
Ouais, c'est la Cadillac de la bière louisianaise.
D'accord. Et donc là, on est sur quoi ? Une IPA, une Pale Ale
Alors, c'est une double New England IPA.
D'accord. Raphaël, un mot là-dessus au niveau du développement. C'est comparable pour toi avec ce qu'a vécu la France, du coup ? Le schéma me semble un peu le même que ce qu'on
ouais,
a évoqué.
Ouais, ouais, effectivement, ça correspond plus ou moins, avec d'abord un petit cercle, puis ça s'étend. Les bières artisanales que tu retrouves de plus en plus dans tes supermarchés, dans tes épiceries du coin, le côté très local aussi qui revient vachement, le côté vraiment trouver la brasserie de son département, de sa ville, de sa région, pas mal de brasseurs qui jouent sur ces identités là donc effectivement j'aurais pensé que ça avait démarré un petit peu plus il y a un peu plus longtemps aux États-Unis, mais bon, effectivement on est à peu près sur le même.
Ça dépend des États, parce qu'il y a des États qui ont commencé bien avant, par exemple la Californie. La Californie, beaucoup d'avance. Nous, alors il y a Habitat, je sais pas depuis quand existe Habitat, je me rappelle plus, mais c'était la première brasserie indépendante en Louisiane. Et bon, maintenant c'est un peu le grand-père, hein, et c'est fait dépasser par les petits jeunes. Mais bon, ça fait un moment qu'ils sont là, mais bon, c'était un peu confidentiel. Il y avait vraiment ils ont une bière ambrée, Habitat Amber, qui est super connue. Mais ça n'a pas vraiment fait tache d'huile. il y a 10 ans vraiment, Parrish, donc je suis en train de je m'apprête à boire une bière de Parrish et je crois que c'est Tin Roof à Bâton Rouge. Donc Parrish est à Broussard à côté de Lafayette. C'est à 2h30 à l'ouest de chez nous, donc c'est en allant vers le Texas. Et Bâton Rouge, donc c'est un peu plus au nord, c'est la capitale de l'État. Donc ces deux brasseries viennent de fêter leurs 10 ans. Et donc, à mon avis, c'est vraiment, pour la Louisiane, c'est l'explosion il y a 10 ans, c'est là que ça a commencé réellement. Ouais.
Et du coup, parce que Raphaël, tu citais... Enfin, tu disais, tu vois, on a chacun nos bières de département ou slash région où ils essayent d'incorporer un petit peu des choses locales souvent. Est-ce que c'est la même chose aux États-Unis? Du coup, est-ce qu'il y a du cactus dans les bières de l'Arizona? Est-ce qu'il y a des choses comme ça?
En Louisiane, oui. Au Texas, voilà. Au Texas, il y a une bière au cactus, ouais.
Ah oui, d'accord.
À la Gavé, tu vois, pour faire le concept un petit peu Tex-Mex. En Louisiane, on avait une bière au gombo. D'ailleurs, il me reste une chez moi. Bière au gombo, bière au boudin cajun. Enfin, c'est surtout la brasserie Bayou Teche qui fait vraiment qui se met les deux pieds dans le terroir louisianais. Ils sont en plein milieu du terroir. Ils sont à côté d'un bayou, du Bayou Teche, c'est le cas de le dire, évidemment. Et donc, ils sont à fond, eux, dans la tradition louisianaise. Parrish, c'est un petit peu plus high-tech, tu vois, c'est un autre concept, c'est une autre vue de la bière artisanale. Voilà, c'est ça qui est bien. En plus, chaque brasserie a son identité un petit peu, et c'est vraiment très créatif. Et en plus, alors ce qui me fait rigoler, moi j'ai évidemment des amis qui boivent, le chanteur de mon groupe par exemple, il est bloqué sur la Bud Light, il ne boit que de la Bud Light, ça fait, je sais pas, 30 ans qu'il ne boit que de la Bud Light. Le bassiste de mon groupe, c'est la Coors Light. Lui, il dit toujours, lui, il a 75 ans. Il dit, la Coors Light est sortie en 77. J'en ai pas manqué une depuis. J'ai pas manqué un jour depuis. Voilà. Donc lui, il est bloqué sur la Coors Light. Notre batteur, c'est la Michelob Ultra. Donc chacun, c'est très américain, ça, d'avoir sa bière attitrée. Évidemment, quand on n'est pas fan de brasserie artisanale, parce que quand on est fan de brasserie artisanale, c'est l'inverse, c'est la nouveauté, c'est qu'est-ce que t'as goûté qui vient de sortir ou que tu connaissais pas, etc. Il y a un clash entre les deux. Et mon ami qui boit toujours de la Bud Light et qui, à chaque fois qu'on joue dans un bar, je prends une bière différente suivant ce qu'ils ont, suivant mon humeur. Et il me dit, qu'est-ce que tu bois encore comme bière bizarre, toi, aujourd'hui? Et alors, en général, c'est un truc louisianais. Je lui dis, tu sais, là, la bière que je bois en ce moment, là, je soutiens le commerce local. Toi, tu soutiens le commerce international à Bainbev. Voilà. Voilà.
Alors, ah ouais, ça attaque les collègues américains sur leur patriotisme. Tout de suite, ça va mal tourner, là.
Eh oui. Et donc, tiens, je peux faire le point B-News, tiens.
Allez.
Dis-moi, on est d'accord, la Ghost, elle est introuvable en Europe. Enfin, en tout cas, en France. Ouais. On est bien d'accord. Ouais.
Alors, il y a un auditeur qui m'a dit qu'il l'a vu dans un caviste. Okay. Et honnêtement, je le crois, mais j'ai beaucoup de mal à le croire. Et je veux voir une photo parce que ça fait, évidemment, on a des centaines d'auditeurs qui nous demandent tout le temps s'ils peuvent en trouver. Alors, je fais un petit peu de taquinage artistique, comme on dit dans l'émission. Il est possible qu'il y ait peut-être une façon pour nos auditeurs peut-être de la goûter un jour. Je ne sais pas, je n'y vais pas plus. Restez à l'écoute de l'émission.
Je pose une question de néophyte, là. Je viens de te voir secouer la bouteille. Pourquoi?
Alors, j'explique. Au fond de la bouteille, parce qu'évidemment, elle n'a pas été embouteillée aujourd'hui, et il y a du dépôt de levure qui, évidemment, donne beaucoup d'arômes. Et donc, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, ça se dépose et ça reste au fond.
D'accord, donc, c'est pour qu'il soit uniformément dans le...
Voilà, je fais revenir le fond pour avoir toute la levure, pour avoir tout le goût de la bière, voilà.
D'accord. Et alors, pendant que je te laisse finir, je vais poser une question à Raphaël pendant que tu dégustes. Mais Raphaël, toi qui étais allé à Houston il y a quelques années, est-ce que tu avais eu le temps de goûter ou de découvrir des choses?
Eh ben non, j'avoue que j'avais pas eu le temps de goûter de bière du Texas dans mon souvenir. Faut avouer, pour donner les coulisses pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais quand on est invité journaliste, c'est vrai qu'au Super Bowl, on a tendance à manger quasiment exclusivement au centre des médias, tout est gratuit, les buffets sont énormes. Donc c'est vrai que j'ai eu tendance par solution de facilité, à ne manger que là-bas. Donc pour être...
Je peux comprendre.
Surtout que le coût alimentaire n'est pas tout à fait le même. On dit de Paris, mais à Houston, c'était plutôt cher dans mon souvenir, donc j'avoue que j'avais tendance à rester tranquillement au centre média et à profiter, donc non, j'ai pas eu l'occasion de découvrir des bonnes bières du Texas, clairement.
Alors, cette petite bière louisianaise, Patrice.
Ah bah c'est une tuerie, hein, c'est tout. C'est simple, voilà. C'est simple, c'est une double New England IPA. Je parlerai de ça tout à l'heure, mais les États-Unis évidemment ont créé beaucoup de styles qui ont inspiré le reste du monde, le reste des brasseries. Et donc New England IPA, ça vient donc de Nouvelle-Angleterre, comme son nom l'indique. Et c'est alors celle-ci, celle que je tiens dans la main, que je suis en train de déguster, est bourrée à craquer de houblon citra, qui est un houblon américain. Et qui lui donne un nez et un goût de pamplemousse, de fruits exotiques. Et c'est une bombe fruitée, quoi. C'est absolument fantastique. Et évidemment, il y a une amertume, mais qui n'est pas une amertume ultra, ultra agressive comme, comme les West Coast, justement. On parlera tout à l'heure, j'imagine, des différents styles américains. Mais une IPA West Coast, si vous imaginez, je vais dire par exemple la Sierra Nevada Torpedo, par exemple. C'est assez corsé, c'est pas du tout le même style d'IPA. Là, c'est vraiment quelque chose qui est dans le fruité, dans l'explosion de fruits exotiques, avec évidemment une amertume, mais qui est moins prononcée que dans les West Coast. Et c'est un style qui est assez jeune en fait, qui est apparu en Nouvelle-Angleterre il y a quelques années, la brasserie The Alchemist, qui a sorti sa fameuse bière Heady Topper, que je n'ai toujours pas goûté, qui est vraiment pour moi, c'est mon Saint Graal. Il faut que je goûte cette bière, un de ces quatre. Et c'est mon style de bière préféré, d'ailleurs. C'est tellement agréable, tellement fruité. Alors, c'est vraiment génial.
Je sais que Raphaël, j'ai entendu IPA, j'ai entendu Citra. Enfin, ça, c'est ta came, normalement.
Ouais, plutôt. Après, pour être franc, j'ai beaucoup de styles. J'ai pas de style préféré, mais oui, on y reviendra plus tard. Mais dans mes trois, il y a une IPA qui utilise beaucoup de Citra, donc... Voilà. Donc j'aurais pas de mal à en parler.
N'hésitez pas hein, sur tous les deux d'ailleurs sur les styles de bière américaine, parce que là c'est vraiment plus votre terrain. J'ai entendu énormément d'IPA, New England IPA, ça c'est vrai que je vois un petit peu l'idée. D'ailleurs, question de néophyte, alors plus ou moins liée à la bière américaine, ces IPA très fruités comme ça, moi j'avoue que quand j'en ai goûté, j'ai pas l'impression de boire de la bière du coup. Alors c'est à quel moment on dit c'est de la bière, c'est de la bière, mais... C'est tellement varié au niveau des goûts que c'est assez étrange en fait quand on connaît pas quoi.
Alors ça peut paraître comme ça la description presque écœurant parce qu'évidemment très fruité etc, mais il y a une amertume qui est là justement pour contrebalancer le côté fruité. Et sur celle-là, ce qui est extraordinaire, alors ça va pas être très ragoûtant quand j'explique, mais à goûter c'est absolument génial. En plus de tout ça, il y a une espèce de côté oignon, ail. Presque, on décrit ça avec Stéphane dans l'émission, presque sueur humaine, une espèce de... je sais pas si vous voyez.
légèrement,
je vois ce qu'est la sueur humaine, mais à boire rarement.
Eh ben justement, si tu mélanges... C'est comme... Alors, si tu manges une gousse d'ail toute seule, par exemple, il y a beaucoup... Enfin, moi, j'aime pas, par exemple. L'ail pur, c'est un truc vraiment qui me rebute. Mais si tu ajoutes l'ail avec du romarin et avec des oignons et avec ceci et avec machin, ça rentre dans la composition du goût du plat et ça le rend meilleur. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que ça pourrait, pour une bière qui pourrait être, on pourrait imaginer qu'elle pourrait être trop sucrée, trop écœurante, c'est pas du tout le cas. Elle est assez complexe, voilà. Et c'est ça qui me plaît dans cette bière, c'est que c'est pas une seule note comme une note de piano, c'est comme un accord en fait de musique où tu as plusieurs notes en même temps qui font que ça se mélange.
C'est une mélodie.
C'est magnifique. C'est une mélodie.
Et c'est vrai que encore une fois, parlons des styles. Mais Raphaël, toi, en bière US, par exemple, t'as goûté quoi? Encore une fois, ce qui revient souvent, c'est les IPA.
Ouais.
Après, si je pense, encore une fois, du peu que j'ai vu, belge, c'est triple, etc. Et donc, dans ce cas-là, quand on va aux États-Unis, à part les IPA, il y a quoi?
Je pourrais pas te dire tout ce qu'il y a aux
États-Unis. Pas tout, mais tu vois ce qui t'a déjà marqué.
Effectivement, moi, la plupart des bières américaines que j'ai eu l'occasion de boire, ce sont à très très grande majorité des IPA ou des New England IPA. Des marques comme Sierra Nevada, je pense que ça doit être la première IPA américaine que j'ai découvert, Sierra Nevada, ou qui m'a ouvert le champ, où j'ai la première IPA, je me suis dit waouh, mais en fait la bière ça peut aussi être ça. Et là ça a été tout un champ des possibilités qui s'est ouvert, genre c'était assez, un grand moment. Mais beaucoup d'IPA effectivement. Je réfléchis si j'ai goûté Non, en tout cas, en France, de ce qu'on reçoit des États-Unis, c'est essentiellement ça. C'est les deux styles. Et encore, les New England IPA, ça va faire que depuis un an que ça débarque en France, un ou deux ans maximum. Hein. C'est très récent.
Exact. Exact. On l'a prédit dans l'émission, parce qu'on a commencé en avril, je crois, 2018. Et ici, c'était déjà vraiment bien admis, bien ancré dans la culture de la bière artisanale, les New England IPA. Et on n'en voyait quasiment pas en France. Et nous, on a prédit ça dans la base. C'est un petit peu comme la mode vestimentaire, mais à l'envers. C'est-à-dire que aux États-Unis, on reçoit la mode française deux ans plus tard. Et ben, vous recevez la mode des bières deux ans plus tard. Donc, on l'a prédit. On s'est dit bon, on trouve pas de ça encore en France, mais ça va arriver. Et là, évidemment, c'est comme on l'avait prédit, ça arrive. Ouais.
Alors, du coup, c'est quoi la prochaine tendance que tu vois venir?
Eh bien, c'est une bonne question. Je vous remercie d'avoir posé. eh bien, je ne sais pas. Réponse dans un épisode de Binouze, j'ai envie de dire. Là, je ne sais pas. Là, c'est une bonne question. Parce que vraiment, le New England IPA, Hazy IPA, c'est un style qui s'impose depuis plusieurs années. Et alors, évidemment, il y a des sous, catégories. Il y a la milkshake IPA, etc. Il y a des tas de trucs différents. Il y a une variante que moi j'aime beaucoup, c'est New England IPA, Hazy IPA avec de l'avoine. Et moi j'adore ça parce que l'avoine donne un petit côté onctueux, doux, une douceur en bouche qui est absolument fantastique. Si vous imaginez un peu manger de l'avoine et puis et avoir une bière qui a un goût de fruits exotiques par-dessus, c'est du bonheur. Donc il y a beaucoup de brasseries américaines qui se mettent à ça, Hazy IPA à l'avoine. Donc il est possible que ça soit une tendance qui arrive. Je voulais rajouter tout à l'heure, tu demandais à Raphaël ce qu'il a bu aux États-Unis, ce qu'il voit de bière américaine. Il y a aussi les stouts évidemment. Alors c'est un petit peu plus
partagé,
c'est un petit peu plus en hiver. Ouais c'est partagé. Oui. Ouais.
Enfin, j'ai l'impression que en tout cas sur le marché français, la stout, on en voit pas que des États-Unis quoi. On a autant l'IPA, on en voit beaucoup qui viennent des États-Unis, autant la stout, c'est un peu plus partagé avec des Anglaises, on a un marché un peu plus mondial, j'ai envie de dire, en France sur la stout, quoi.
Bien sûr, parce que c'est une bière qui est la Guinness, etc. C'est un style qui est vraiment traditionnel de la Grande-Bretagne. Mais ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils la boostent un peu, ils la font vieillir en fût de bourbon, etc. Alors des fois c'est bien, des fois je sais pas, moi je suis un petit peu entre deux sur ce style là. Ce que j'aime beaucoup en revanche, c'est les stouts au café avec du café dedans carrément. Et il y a un stout café, coffee stout louisianais qui est dans mon top 3 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est absolument fantastique, à tomber par terre et qu'il faut absolument goûter.
Petite question pratique, Raphaël l'évoquait tout à l'heure sur le coût de la vie. Ça coûte combien une bonne bière aux États-Unis? Est-ce que c'est plus cher qu'en France, moins cher qu'en France, dans les mêmes eaux?
Moi, je dirais que c'est moins cher. Une bière, alors par exemple, un pack de 6, bon, évidemment, ça varie. Je dirais que c'est entre 8 et 10 dollars, un pack de 6 de bière artisanale américaine.
Ah oui, donc ça fait 8 euros les 6.
Ouais.
Oui, clairement moins cher.
Oui, Raphaël, on est sur combien en France?
Ah
c'est
bah,
3 euros la bouteille, non?
Ouais, au mieux, effectivement, je pense que t'es à 2, j'allais dire 2,70 au mieux, vraiment, si tu fais une belle affaire, mais ouais, plutôt 3,50 même. Hein.
Oui, alors, celle que je suis en train de boire, je crois qu'elle coûte 11 dollars les 4. Voilà, elle est un peu plus chère. Voilà, elle se vend par 4 au lieu de 6, pour garder ce point de prix. Mais bon, parce qu'elle est à fond, enfin, je vous la voyez sur le zoom.
Elle a une belle couleur, hein, vraiment.
Ouais, c'est à fond, il y a du citra, mais on voit rien à travers, c'est ultra velouté. Donc il y a une quantité de houblon citra qui est très importante, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus cher. Mais en général, ouais, un pack de 6, l'autre jour j'ai acheté un pack de 12 de Two Hearted Ale qui a été voté, ça fait 4 ans d'affilée qu'elle est votée meilleure IPA américaine. Le pack de 12, je l'ai payé 17 dollars.
Ah ouais. Oui. Mais ouais, d'accord.
D'ailleurs, il y a beaucoup de packs pour les bières artisanales en France, Raphaël?
Oui, les brasseries, oui. Si tu vas à la brasserie, t'arrives, bien sûr, tu repars avec tes packs. C'est vrai qu'en supermarché, elles sont plus vendues à l'unité en bouteille, clairement. Ouais.
Ici, c'est l'inverse.
D'accord. Et du coup, pour info, les Bud Light, ça coûte combien?
Alors, bonne question. Ça fait ultra longtemps que j'en ai pas acheté, bien évidemment. Mais je crois que ça doit être dans les 7 dollars.
D'accord, les combien du coup?
Les 6.
Ah, les 6, ah oui, d'accord.
Pack de 6, ouais. Ici, c'est par pack de 6 ou pack de 12.
Ah oui, le fameux six pack.
Bien sûr.
J'ai oublié. D'ailleurs, justement, pour l'industriel, question là de la personne qui voit que des pubs pendant les matchs de football américain. Pourquoi les Américains aiment autant les bières light? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire light? Mais ils ont que des bières light, Coors Light, Bud Light, machin light.
Alors, c'est une tendance qui a commencé dans les années, je crois, 70. J'espère ne pas dire de bêtises. C'est Miller Light qui a commencé, qui était le premier sur le segment. C'est-à-dire qu'au tout début, ils ont marketé ça comme une bière de sportif. Au début, il y avait des joueurs
Oxymore,
de... Ouais. Ouais, ça dépend. Il paraît que c'est très bon pour après
oui,
l'effort, après la course.
Oui, oui, non, mais c'est vrai. Selon les proportions, je suis mauvaise langue. Ouais, ouais,
mais
non,
bon,
je suis
non, mais c'était le marketing. Si tu veux, t'avais le gros joueur de football américain avec sa Miller Lite. Je crois que c'est les gens qui. Alors, ce que l'histoire que raconte Stéphane, c'est que avant, je sais pas si vous avez vu la série Mad Men. Donc, c'est à l'époque, dans les années 60, 50, 60, c'était le whisky, enfin la vodka, le gin et tout ça. Et ils ont essayé dans les années 70 de se placer en disant tiens au lieu de boire de l'alcool fort vous pourrez boire de la bière, une bière light qui va pas vous faire grossir, etc. Ils ont marketé ça un peu genre les joueurs de golf, tu vois, les un petit peu ce segment là et c'est bah, ça fait florès. Donc Miller Light a commencé, après je crois que la deuxième c'était Coors Light. Et puis après, évidemment, Budweiser a enchaîné, etc. Et puis ça fait tache d'huile. Et honnêtement, la plupart des bières qui se vendent aux États-Unis sont des bières light, oui. Mais je crois que les bières artisanales, petit à petit, sont en train de grignoter des parts de marché. Et justement, les grands groupes sont en train de racheter des brasseries artisanales qui ne le deviennent donc plus, évidemment. Vous envoyez en Europe Lagunitas.
D'accord.
Il y en a plusieurs autres là. Il y en a pas qui me viennent. Il y a Blue Moon. Alors Blue Moon n'est pas une brasserie à part entière. C'est fait par Coors, mais ils essayent de te faire croire que c'est une brasserie artisanale alors que c'est pas vrai. Ça, on en a parlé dans l'émission. Enfin, il y a tout un tas de pubs comme ça, de marketing pour essayer un petit peu de rentrer sur ce marché. Tout en gardant le grand groupe, la distribution. Alors, ça peut être sympa. Il peut y avoir une brasserie qui est une brasserie indépendante et tout d'un coup, elle se fait racheter par exemple, Heineken comme Gallia. Et puis, j'imagine qu'après, elle bénéficie, cette bière, cette brasserie bénéficie de la distribution de cette grande marque. Alors, est-ce qu'après, ça change En tout cas, ça change l'image de marque beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire « Ah, bah depuis qu'ils ont été rachetés, bah, c'est moins bon, etc. » Bon, ça, je trouve c'est un peu bête parce que si le produit est le même et que tu en trouves dans ton supermarché alors qu'avant, tu n'en trouvais pas, bah, tout le monde est gagnant. Mais enfin, bon, voilà, c'est un débat un peu long.
Juste pour finir vraiment avec les industriels, mais donc Budweiser, Coors, etc., même dans les versions non light, est-ce qu'il y a des trucs à sauver là-dedans, Raphaël? Je ne sais pas si tu en as déjà. Alors, pour le coup, moi, je suis à zéro pour les bières américaines, donc je me reporte entièrement vers vous. Je ne sais pas si en France, tu en as déjà goûté quelques-unes de celles-là. Est-ce qu'il y a des trucs à sauver?
J'ai eu l'occasion de boire de la Bud. Bon, c'était pas. Bon, voilà, hein, sincèrement, quitte à acheter de la bière pas bonne, autant acheter, j'ai envie de dire, presque français et de la 1664, quoi, enfin, à quelque part. Ouais, non, enfin, en tout cas, vraiment, dans les très industriels, pour moi, il n'y a rien à. Enfin, je vois pas vraiment à sauver, en tout cas, qu'on a en France. Après, je sais pas, peut-être, je sais pas quel est son niveau aux États-Unis, la brasserie Brooklyn. Je sais pas si elle est celle qui fait la Brook. Enfin, on en voit pas mal en France, la brasserie Brooklyn. Je sais pas si on est dans de l'industriel ou
ah
pas.
Ah non, c'est une brasserie indépendante. Hein.
Et bah voilà. Bon bah alors pour le coup, du coup, on n'est pas dans l'exemple industriel parce que ça, pour le coup, elle passe plutôt bien pour une bière que tu trouves un peu partout maintenant en France. C'est elle
oui,
peut faire le taf. Ouais.
Il y en a chez une enseigne de surgelé qui commence par un P.
Voilà,
je dis ça parce que je l'ai vu l'autre fois. Et d'ailleurs, tiens, je dis une bêtise. Du coup, j'ai goûté une bière américaine parce que j'avais goûté une Brooklyn Lager. Que t'es pas mauvaise en l'occurrence.
Ouais, ouais. On l'a fait dans l'émission, c'est pas mal.
Ouais, Patrice, du coup, est-ce que tu sauves un truc? Est-ce que des fois tu t'encanailles avec une petite Coors Light ou une Budweiser, ou est-ce qu'il y a vraiment rien à sauver?
Alors, non, Budweiser, tout ça, non, j'évite maintenant. Mais il y a, alors, je sais pas si on peut vraiment les positionner sur le même segment, mais il y a la Schlitz, par exemple, dont Stéphane parle tout le temps, qui c'est la bière, la lager américaine traditionnelle que Stéphane adore. Et bon, ça n'a rien à voir, c'est une vraie bière. C'est une vraie bière qui a un goût de croissant, un goût de pain. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui peut être Budweiser. Dans le reste, honnêtement, non, quoi. Alors, Est-ce qu'on considère que Lagunitas, ça fait partie de ça, parce que maintenant ils ont été rachetés. Par exemple, que si je vais dans un bar et qu'il n'y a que de la Budweiser et la Lagunitas IPA, c'est évident que je vais prendre la Lagunitas IPA. Il y a une brasserie qui est encore indépendante au Texas qui s'appelle Shiner et qui ont une Bock. Donc c'est comme une Vienna Lager, c'est une lager de type allemand qui est d'aspect ambré, qui est absolument génial. Ça, je bois ça sans problème. Mais bon, ça fait pas partie des grands groupes. Tu me poses la question des grands groupes, honnêtement. Non, quand je vais me faire couper les cheveux, l'endroit où je vais me faire couper les cheveux, il y a un frigo avec Budweiser, Miller Lite et Coors Light. Et elle me dit, tu veux une bière? Et moi, je dis, non, ça va, merci.
Putain, c'est sympa, vos coiffeurs. Hein.
Ouais, je... Bon, ils proposent un café à l'occasion, mais...
J'en avais un autre où tu pouvais aussi prendre, par exemple, du Jameson, tu vois.
Okay. Ah ouais, carrément. Ah, c'est sympa les barbeurs chez vous, ouais.
Ouais, en faisant couper les cheveux. Ouais, ici il y a des trucs un peu boutique comme ça. Craft, le barbier Craft, voilà.
Ok.
Ça nous conforte dans l'envie d'aller Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, non, Alain?
C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Tous les journalistes ricains disent que c'est le meilleur endroit pour le Super Bowl, donc on se le garde
mais
de côté.
Évidemment. Là, je vous donnerai des adresses, on se croisera autour d'une bière.
Ah bah avec plaisir. Ah bah, je sais plus c'est en quelle année il y en a un qui est
deux
prévu,
ans, non
de 2-3 ans ou ouais, quelque ouais. chose comme ça. Mais il va être repoussé parce qu'il y avait une histoire peut-être de Mardi Gras qui empiétait ou je sais plus quoi.
Ah bon.
En tout cas, j'ai bien compris que les bières industrielles c'est pas dingue. Juste vraiment dernière question là-dessus. Est-ce que je dois en boire une pour mon éducation?
Oui, pour avoir un référent, j'ai envie de dire.
D'accord. Voilà, c'était juste pour être sûr.
Voilà, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, tu vas manger un McDo pour, quand tu te fais toi-même ton hamburger ou si tu vas dans un restaurant qui fait des hamburgers maison, pour que t'aies un référent, quoi, voilà. Parce que si tu bois ça, tu trouves ça, ouais, c'est sympa, mais si tu fais un référent avec ce qui se fait également, tu vois, enfin, je dirais oui, une fois, pour pouvoir en parler.
C'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu, des fois, tu vois, je sais pas trop sur les bières que je bois, Raphaël. Tu vois, j'ai commencé directement.
T'as commencé trop fort, en fait. Ouais, t'as pas eu la phase découverte de la bière d'abord à Heineken, puis après les Belges, puis après.
C'est ça, je suis allé direct chez le caviste. Donc, du coup, j'ai jamais goûté une Heineken encore. Il faudrait peut-être que j'en achète une.
Ah, bah oui. Ah non, mais clairement, goûte. Tu vas voir la
croûte qui sort la petite épicerie.
Bon, bah, je vais faire ça. Ouais. Je vais aller faire une petite descente sur les basiques en même temps. Messieurs, je vous ai préparé un quiz parce que, encore une fois, moi j'ai une toute petite expérience maintenant, mais vous restez les experts de la bière. Donc, je vous ai préparé un petit quiz spécial bière américaine. Alors, je pense que Patrice va avoir pas mal de réponses, mais Raphaël, tu peux tenter de challenger. La première question est simple. Quel est le top 5 des bières les plus bues aux États-Unis en 2019?
Alors, c'est une question pour moi?
C'est pour tout le monde. Si Raphaël, tu y arrives, mais sinon, pas très
bien. Au moins la Bud dedans, mais après, Bud Light.
Bud Light. Budweiser.
Alors, Budweiser et Bud Light, les deux sont top 5.
Ok. Ouais. Bud Light, Budweiser, Coors Light, Michelob Ultra.
Ouais, il en manque une.
Il en manque une.
Il y a Light dedans aussi.
Miller Light.
C'est ça.
Ok.
C'est ça, le top 5, c'est, alors, je vous le donne dans l'ordre, c'est Bud Light, Coors Light, Miller Light, donc les trois premières sont des Light, Budweiser derrière et Michelob Ultra derrière, dont on a parlé un peu hors antenne, Patrice, tu nous disais c'est une bière de régime, mais qu'on connaît pas du tout ici pour le coup.
Oui, parce qu'à chaque fois que j'en parle à des Européens, ils disent non, jamais entendu parler, alors qu'ici, mais t'en trouves, mais partout, quoi, tu lances une pierre, tu tombes sur une bouteille de Michelob Ultra, c'est, y en a partout, tout le monde en boit, ça n'a absolument, alors je vais pas faire un jugement de valeur, mais bon, je suis un peu obligé, c'est mon métier, c'est des formations binous, mais ça n'a aucun goût, c'est-à-dire si vous imaginez du Perrier jaune, mais vraiment ça n'a strictement aucun goût.
Ouais, ça...
Alors, pour info, je vous donne le reste du top 10. Corona Extra, Modelo Especial, Natural Light, Busch Light et Busch, tout court. Deuxième question sur les 25 bières les plus vendues aux États-Unis. Combien ne sont pas américaines? Sur le top 25, combien sont étrangères?
Alors déjà deux, les deux que tu as cités, Modelo et Corona, donc ça fait deux.
Alors, je vous laisse me donner un chiffre. Sur le top 25, combien ne sont pas américaines?
Ouais, 4-5 max, je dirais.
Ouais, alors, grand
4,
max.
Pour Raphaël.
Je dirais 3, moi.
Eh ben, c'est un peu plus, c'est 6.
Ah bon?
Ouais, c'est 6. Alors, il y a la plus populaire, donc la Corona Extra dont on a parlé, mexicaine, la Modelo Especial mexicaine. Et derrière, on retrouve Heineken,
Pays-Bas, ah Stella Artois pour la Belgique, Dos Equis qui est mexicaine de base puis propriété d'un groupe hollandais, et la Guinness.
Ah ouais, 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 ok.
Glisse quand même dans le top 25.
Exact.
Alors, chiffre environ, mais là du coup, Patrice, tu l'as quasiment déjà donné, combien y a-t-il de brasseries artisanales, les craft breweries aux États-Unis?
Moi je crois que c'est 7000 et quelques. Hein.
Ouais, moi j'avais autour de 7500 sur le chiffre que j'avais trouvé.
Et puis ils s'en ouvrent tout le temps. Il y en a deux qui viennent s'ouvrir à Nouvelle-Orléans. Il y en a une qui s'appelle Le Chien à Nouvelle-Orléans.
D'accord. ils sont français ou c'est un hasard?
Non, c'est pas un hasard, mais ils sont à fond sur la culture louisianaise. À Nouvelle-Orléans, je vais te citer des brasseries. Il y en a une qui s'appelle Miel, une qui s'appelle Parlo, qui sont dans le district Bywater, donc Parlo à côté de l'eau, Bywater. Donc ils ont traduit en français, okay. Parlo.
Parlo, d'accord.
Donc il y a Miel, Parlo et Le Chien. Donc tu vois,
petite influence.
Ouais.
On passe sur les gros chiffres. Combien de litres de bière artisanale ont été vendus aux États-Unis en 2019?
Voilà.
Donc on est en millions de litres.
Ah là, j'ai aucune idée. Hein.
Ah, trop dur.
Alors, je vais essayer de vous donner. Oui, il n'était pas facile. Bon.
Ah, non, ouais.
Donc on est en millions de litres. On est en milliers de millions.
Voilà.
Bon, je vous le donne, c'est 3039 millions de litres.
Waouh.
En fait, j'ai été obligé de
convertir.
Oui, bah oui. Du coup 3 milliards.
Oui.
voilà. 3 milliards.
Non, Alain n'a pas fait de filière scientifique.
Non,
hein,
je suis littéraire. En fait, j'ai été obligé de convertir, si vous voulez, c'est qu'il compte en millions de barils. J'ai trouvé des unités américaines, c'était en millions de barils, et c'est des barils de 117,35 litres, parce qu'ils ne font jamais tout simplement au niveau des unités de mesure, évidemment.
Non, non, bien sûr, jamais.
Voilà, donc c'est en millions de barils, ce qui donne 3 milliards de litres. Alors, je vous ai fait cette question, c'était pour faire une comparaison instructive. Donc, 3 milliards de litres de bière artisanale. Et à côté de ça, combien de litres de Bud Light ont été vendus en 2019 aux États-Unis?
Moi, je dirais 300 milliards.
Alors, non, quand même pas. Quand même pas.
C'est fois 10, trop. 30.
Et la moitié, c'est mon pote.
Non, 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 c'est quand même moins. C'est plus proche que de la bière artisanale, mais c'est pas.
Ok.
15
Ouais, dans les 12-15.
Non, alors en fait, on est à 3 milliards 1.
Ah bon?
C'est-à-dire, ouais, ou même 3 milliards 2 si on arrondit, puisque c'est 3,191.
Ah oui, mais juste donc, la Bud Light, ouais, d'accord.
C'est juste la Bud Light. C'est-à-dire que juste la Bud Light, c'est un tout petit peu plus que toute la production de bière artisanale en 2019. Et donc pour la Bud Light, par exemple, c'est 27,2 millions de barils. Voilà, c'est l'unité de mesure. Dernière petite question. Yuengling est la plus vieille brasserie américaine toujours en service. Elle est basée en Pennsylvanie. Depuis quand était... Ah bah voilà. Alors Hershey's, par contre, c'est pas des chocolats. Il y a du chocolat dedans.
C'est du chocolat. C'est la Chocolate Porter. L'épisode est sorti aujourd'hui. C'est une porter au chocolat Hershey's. Deux entreprises de Pennsylvanie.
Alors, du coup, est-ce que tu sais quand elle a été fondée, cette Yuengling?
Alors, je crois que Stéphane en a parlé dans l'épisode. Je vais dire 1831.
Ah, c'est pas loin. C'est à deux ans près. C'est 1829.
Tu vois, je t'ai pas
ça va, t'écoute.
fondée par un Allemand qui a immigré aux États-Unis.
Absolument. Bon, voilà, c'est la brasserie traditionnelle la plus vieille aux États-Unis.
Voilà, c'est ça. C'était donc le petit quiz info et amusement et enseignement. C'est l'heure de passer au top 3, messieurs, déjà. On va laisser notre invité commencer. Alors, Patrice, tu peux y aller. On donne les 3 chacun notre tour. Donc, tu peux donner les 3 d'un coup. Tes petits coups de cœur. Alors, soit coup de cœur du moment, soit tes bières sûres, comme on dit ici.
Ok. Alors, je voudrais rajouter une chose. Tout à l'heure, tu nous demandais si tu devais boire de la Budweiser. J'ai envie de dire pour étayer ma réponse, oui, il faut voir un nanar pour apprécier un bon film.
C'est vrai. Voilà.
Alors mon top 3, alors en numéro 3, c'est un stout au café louisianais. Vous allez voir que mes 3 bières, je vends la mèche, mes 3 bières sont des bières louisianaises. La numéro 3, c'est une bière qui nous vient de chez Parrish, qui est vraiment là pour moi la brasserie louisianaise la plus importante, la plus innovante, et je trouve celle qui a un niveau de qualité qui est au plus haut dans l'état de Louisiane. C'est une bière qui s'appelle Rêve en français dans le texte, et le nom vient d'une entreprise de café qui est à côté, qui est à Lafayette, qui s'appelle Rêve. et ils mettent du café de cette entreprise dans leur stout. Et le stout, si vous aimez le café, c'est absolument obligé que vous tombiez amoureux de cette bière. C'est absolument génial. Si vous aimez le café frappé, si vous aimez la bière, je veux dire, c'est absolument automatique. On l'a envoyé au YouTuber Simon, dont Stéphane parle tout le temps dans l'émission. Il en parle tellement que maintenant je bipe son nom parce que voilà, parce que ça suffit. Et on lui a envoyé cette bière et il est absolument, vous pouvez le trouver. Il s'appelle Simon. Sa chaîne YouTube, ça s'appelle Real Ale Craft Beer. Et il est absolument flashé dessus. Il se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est cette brasserie? C'est une bière qui est absolument fantastique. On a interviewé un des brasseurs de Paris dans l'émission, et je crois il y a un an ou deux, peut-être un an et demi. Et c'est sa bière préférée, c'est celle qu'il a sirotée pendant notre interview. C'est un start absolument fantastique. Si vous passez en Louisiane, il faut absolument le goûter. Donc c'est mon numéro 3. En numéro 2.
En France que là, tu m'as donné soif.
Grave.
Malheureusement, pour l'instant, on a demandé, c'est pas faute d'avoir demandé, je dois être le lourdingue de service à chaque fois que je leur demande pour savoir si quelque chose a changé, mais tellement nos auditeurs nous demandent, est-ce qu'on peut trouver des bières Paris? Alors à chaque fois je leur demande et à chaque fois ils me disent, ben non. En fait, je crois que c'est une histoire de permis à l'exportation qu'ils n'ont pas.
D'accord, ouais.
Mais j'imagine que si, peut-être s'ils peuvent se mettre en rapport avec un importateur, je lance un appel dans l'émission, si vous êtes importateur. Je sais pas moi, français, européen, belge, je ne sais quoi. Vous pouvez rentrer en contact avec nous, on vous mettra en contact avec cette brasserie sans problème et ce sera vraiment un grand service à l'humanité que de faire amener ça en Europe après avoir fait baver tout le monde dans le podcast depuis 2 ans et demi. Alors donc c'est ma troisième de mon top 3. La numéro 2, on va changer de brasserie, on reste en Louisiane. C'est la brasserie qui s'appelle Urban South, qui se trouve à la Nouvelle-Orléans, sur la rue Chapitoulis, je crois, qui est une rue qui est imprononçable et pour orthographier, il faut se lever tôt. Les touristes ne savent pas le prononcer, mais c'est pas grave. Et donc, cette brasserie est absolument géniale. On connaît les brasseurs, ils sont super sympas. Holy Roller, c'est comme un... les fumeurs, quand ils ont plus de cigarettes, ils stressent. Moi, quand j'ai plus de Holy Roller chez moi, je stresse. C'est pas possible. Il faut que j'en ai constamment dans mon frigo. C'est ma bière de tous les jours. Voilà, c'est vraiment c'est ma régulière. À chaque fois que ma femme va faire des courses, elle me dit « T'as besoin de rien ?» Je dis « Bah, Holy Roller, normal. » Comme d'habitude. C'est une Hazy IPA. Alors, c'est pas une double comme celle que je suis en train de déguster, la Ghost in the Machine. C'est une IPA normale, c'est une simple IPA, elle fait 6 degrés je crois, mais c'est une hazy IPA, donc évidemment beaucoup de fruits exotiques, d'agrumes, etc. Et avec une petite pointe de... Stéphane décrit ça comme une pointe de poivre blanc, voilà, une espèce de pointe d'autre chose, pour que ça soit pas, comme je disais tout à l'heure, sur une seule note, qui est une espèce de... d'accord entre plusieurs goûts et elle est vraiment désaltérante. C'est vraiment une bière qui passe toute seule. Elle en demande une deuxième et une troisième malheureusement. Mais c'est ma régulière. Voilà. Donc ma régulière, si j'étais sur une île déserte et qu'on me dit, on va te balancer un fût, tu peux en prendre qu'une, on peut te balancer qu'un seul fût, ça sera celle-là. Et la numéro 1, eh bien je la tiens dans ma main. C'est la Ghost in the Machine de chez Parrish qui est absolument à couper le souffle. Ils sont en train d'étendre leur influence. On en trouve maintenant au Texas, on en trouve à Houston. Tiens, si vous repassez par Houston, vous pourrez acheter des bières Parrish. On en trouve maintenant en Floride, paraît-il. J'imagine, par exemple, en Caroline du Sud, etc. Ça commence un petit peu à s'étendre, leur sphère d'influence comme ça. Et j'en parlais tout à l'heure, c'est une double IPA New England qui est absolument à tomber par terre. Alors, ils en font d'autres, hein, cette brasserie-là. D'autres qui sont un peu plus éphémères, qui sortent de temps en temps. Il y a la Atticus Atlas qui est sortie, que j'ai pas encore vu dans mes supermarchés, mais ça ne saurait tarder. Donc ils en font d'autres qui sont extrêmement bonnes. Mais celle-ci, c'est vraiment leur bière étendard. Et d'ailleurs, je pensais à ça l'autre jour, j'arrive pas encore à croire qu'on puisse trouver ça vraiment super facilement dans nos supermarchés. Je trouve ça incroyable d'avoir une bière de cette qualité là à portée de main. Vraiment, c'est absolument génial. Et comme je disais tout à l'heure, taquinage artistique, restez à l'écoute chez Binous USA, j'en dis pas plus.
Bon, mais pour y avoir de bonnes surprises, en tout cas, ça donnait
ça donne envie,
très
ouais.
envie. Ouais, merci Patrice, on a presque envie que, ouais, que tout ça arrive très rapidement. Raphaël, avec des bières qui seront du coup disponibles en France,
ouais.
C'est à ton tour pour ton petit top 3. Est-ce que tu as de la bière sûre, du coup de cœur ou de la bière de tous les jours?
Alors, j'ai pas réussi en fait à avoir... j'en ai deux sûres, on va dire, et la troisième, tu vois, j'arrivais pas à me décider entre... le vieux souvenir de la bonne belge qui m'a fait découvrir la bière ou la première truc, j'arrivais pas à trancher. Du coup, j'ai pris un contre-pied un peu original et en fait, je vais partir sur la Brooklyn Special Effect, donc qui est une bière de la brasserie Brooklyn et qui en fait est une bière sans alcool, 0,1% ou 0,2 degré d'alcool dedans. Et alors je l'ai choisi parce qu'en fait je faisais le SAM à une soirée et j'avais besoin de et je cherchais un truc à boire mais qui soit pas un soda dégueulasse voilà et les bières sans alcool jusque là que j'avais trouvé à Heineken tout ça sont absolument affreuses et il s'avère que cette bière là est très houblonnée, elle est vraiment bonne et t'as l'impression de boire une bonne bière mais du coup sans alcool, donc c'était plus une troisième bière conseil pour tous les gens qui pourraient être amenés à conduire prochainement quand on va pouvoir tous ressortir, aller chez nos amis en famille, faire la fête, tout ça
un jour,
je me disais qu'il fallait que je parle de cette petite astuce conducteur prudent, sérieux parce qu'il y a enfin une bière en France de supermarché, une bière sans alcool qui est buvable, donc voilà,
c'est génial.
Je tenais à la...
Non mais ouais, super conseil pour le coup. Oui, donc c'est la fameuse brasserie Brooklyn.
C'est ça, et du coup, moi je savais pas trop si on était dans Indus ou pas, mais vraiment pour le coup, elle est houblonnée, t'as un goût de fruit un peu, c'est vraiment c'est une bonne surprise pour une bière sans alcool en fait. Donc voilà, je me suis dit que tiens, j'allais partir là-dessus. Sinon, sur les deux autres que j'ai, j'ai pas de 1 ou 2, on va dire, mais j'en ai une sûre qui est un peu ma bière qui revient très souvent, petite dédicace à la brasserie du Grand Paris qui brasse à 2 km de chez moi à Saint-Denis dans le 93, je suis vraiment à 2 km de la brasserie, et donc c'est leur IPA Citra Galactique qui est un mélange de plusieurs, donc une IPA autour de 6 degrés, on a un mélange de plusieurs houblons dont notamment le Citra forcément d'où le nom, du coup on retrouve ce que disait tout à l'heure Patrice, des notes vraiment très explosives de fruits tropicaux, même un peu de citron. Enfin voilà, c'est vraiment très plaisant. Pour moi, c'est une bière qui se boit absolument toute seule. Une première, une deuxième, elle passe toujours bien, quel que soit le temps, quel que soit le moment de la journée. Donc clairement, IPA Citra Galactique, c'est ma bière sûre, on va dire. Voilà. Et alors la deuxième, je vais essayer de vous la donner en estonien, mais je suis pas bien sûr de mon estonien pour le coup.
Ah, mais on maîtrise, on va t'aider.
Ah bah tant mieux, vous pourrez me corriger du coup, mais qui est Piolelo,
ah,
un
oui,
truc comme
beau.
Ça, ouais, qui veut dire en français nuit nordique. Voilà, c'est très poétique.
C'est joli.
Donc, très joli. C'est une Imperial Baltic Porter de la brasserie estonienne du même nom, Piolelo. Alors là, par contre, c'est plus pour les... Alors, je vais vous dire comment eux, ils la décrivent et vous allez comprendre du coup aussi son degré d'alcool, tout ça. C'est une bière pour vous accompagner dans les longues nuits d'hiver estoniennes. D'hiver estonien, donc on tape sur du 10 degrés.
Mm-hmm.
Donc clairement, c'est une, hein. C'est une un soir, vous
oui, ça suffit.
Pas. Voilà, pas la peine d'en enchaîner une deuxième. Et qui est, du coup, pour moi, qui est une super bière avec des arômes torréfiés de café. Il y a aussi un arrière-goût de chocolat qui revient en fin de dégustation.
Ça, c'est magnifique, ça.
Ah, franchement, elle est super. Et en France, on la trouve, le site Saveur Bière la vend, mais on peut aussi la trouver en bar. Je l'ai eu plusieurs fois en pression dans un bar à bière sur Paris, qui avait fait une collaboration avec cette brasserie estonienne. Enfin, bref, et ils en ont de temps en temps. Je pourrais, sur Twitter, je vous donnerai le nom du bar, mais voilà, donc une petite Baltic Porter, j'en avais bu quand j'étais allé en Estonie aussi, c'est un rappel au voyage aussi, et je trouve que là, l'hiver approchant, se réconforter dans une petite Porter, c'est pas un mauvais choix.
Clairement, ça donne envie aussi. Bon, bah, du coup, il va falloir que... Mais la Citra Galactica, je savais, parce que je crois que c'est la première dont tu m'avais parlé quand je m'y suis mis. Donc
ouais,
je savais que c'était ta bière sûre pour le
coup. On nous en a envoyé, elle n'est jamais arrivée à bon port.
Ah mince.
Il va falloir vraiment qu'on nous en envoie.
Eh ben écoute, franchement je t'en envoie, j'ai la brasserie à 2 km.
Ah, alors là, oui, absolument.
Tu nous envoies ton adresse par message?
Absolument, avec grand plaisir.
Ok, eh ben on fait ça.
Il va y avoir des échanges, je le sens. bon, je me sens tout petit parce que je vous en parlais tellement bien que j'ai peur d'avoir l'air bête en donnant mon top 3, moi, du coup. Donc, sur ma grosse trentaine, donc justement, tu parlais. T'as dit quoi ? C'était une Porter la dernière ?
Ouais, une Baltic Porter. Ouais.
Alors, moi, la première, c'est le coup de cœur. C'est vraiment une de celles où j'ai vraiment pris le plus de plaisir. Elle s'appelle la Baltic Brand. Enfin, le nom complet, c'est Multidimensional Being. Ça vient de Cloudwater Brew, qui est à Manchester.
Cloudwater, oui.
Voilà. Et en fait, c'est décrit comme un hybride entre une Baltic Porter et une Brown Ale. Et en fait, j'ai adoré justement le côté note de chocolat, café surtout. Et ça a vraiment vraiment été une découverte pour moi au niveau bière noire entre guillemets à la robe un peu sombre. Ça a été la première, enfin la deuxième parce qu'il y en avait une autre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait la Running with Spectres, je me rappelle plus du nom de la brasserie, mais en l'occurrence la Baltic Brand c'était vraiment le top du top là-dessus, et j'en garde un excellent souvenir, et il faudrait d'ailleurs que j'aille en retrouver. Donc à ce niveau-là, moi je commencerai par ça. La deuxième, c'est la Cerberus, qui est une triple belge qui est brassée à Paris, à la brasserie de Lettres. Je ne sais pas si...
Super
Raphaël.
Brasserie, ouais.
Et donc la Cerberus, une triple que j'ai pareil. Alors pour le coup, c'est marrant, ça m'a fait sourire Raphaël quand tu disais que tu avais eu le moment bière belge et qu'ensuite tu avais découvert d'autres choses. Je crois que j'en suis encore au moment bière belge. Pour l'instant, je suis bien dans ces trucs-là. J'aime bien toutes leurs triples, tous ces trucs-là. Et pour le coup, dans ce type de bière-là, la Cerberus, donc de la bracelette, qui a une bouteille d'ailleurs assez sympa. On dirait un truc de sirop un peu à l'ancienne, très joli. Donc la Cerberus de la brasserie de Lettres. Et puis alors la troisième, j'ai pris une. Je voulais en mettre une un petit peu de tous les jours qu'on peut trouver facilement. Et en plus combiner le côté local dont on parlait. Donc ma go-to que j'aime bien, c'est la Pietra, qui est une lager à la châtaigne qui vient de Furiani à côté de Bastia. Corse, donc ouais. Je m'appelle Mattei, j'ai de la famille qui est juste à côté de Furiani. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé pour le coup.
En bière corse, quand t'as l'occasion d'y retourner, je te conseille les bières de la brasserie. C'est une toute petite brasserie encore, la Ribella. C'est la brasserie Ribella. Donc ça s'écrit Rebelle machin. Qu'une petite gamme assez développée et qu'on pour particularité dans chacune de leurs bières de mettre un ingrédient typique corse. Donc tu vas avoir une IPA avec de la clémentine corse. Tu vas avoir une IPA avec une plante endémique corse, je sais plus son nom. Enfin voilà, à chaque fois ils essayent de trouver un petit truc local
du terroir.
Du terroir et qui est vachement pas mal. Hein. Donc,
d'accord.
Bah,
écoute, je suis impatient d'y retourner. Tu te doutes bien. mais donc là, en l'occurrence, la Pietra, c'est aussi ça. Hein. C'est-à-dire que la châtaigne, c'est parce que c'est donc Furiani, c'est pas loin de la Castanicia, qui est la vallée de la châtaigne. Et donc il y a cet ingrédient. Et encore une fois, je l'ai trouvé très très bonne. Donc moi, je suis content. Ça fait plaisir à mon père, tu vois. En plus, comme ça, ma go-to, c'est une bière corse. Et ça fait partie de celles que j'aime bien avoir justement le soir. Tu vois, s'il y a une petite occasion comme ça ou envie de se rafraîchir, j'ai beaucoup apprécié. Donc,
c'est
voilà,
la bière préférée de Fanny Cohen-Moreau, qui est une copine de podcast. Vous connaissez Fanny,
oui.
Bien évidemment.
Oui.
C'est sa bière régulière, comme moi, la Urban Sours Early Roller. Elle était avec nous dans l'épisode 52, je crois. La centième. Elle était avec nous dans la centième. On avait tout un tas de copains et de copines. Et je leur avais demandé, prenez votre bière préférée pour la boire dans l'émission avec tout le monde. Et elle avait pris la Pietra. C'est sa bière. Je crois que son copain est originaire de là-bas, donc voilà, c'est sa bière régulière. Donc c'est sympa que tu en parles.
Bon, ben voilà, ça nous fait un point commun comme ça. Alors la question de l'émission, évidemment, on y répond toujours à la fin. Faut-il reprendre une bière en l'occurrence américaine? Je pense que la réponse là est oui, ça n'a jamais été aussi facile.
Clairement, ça n'a jamais été aussi facile.
Répondre en image.
Il en reprend une en plus, on vous le dit en direct. Donc la même du coup, hein, je vois.
Ah bah oui, hein. Quand on commence avec la Ghost, après le reste c'est de la petite bière.
On ne change pas une équipe qui gagne alors. Merci beaucoup Patrice d'avoir été avec nous pour cette émission.
Mais merci à vous.
Est-ce que tu aimes Christophe Ondelat? Je ne sais pas s'il est très connu aux États-Unis encore.
Alors non, il n'est pas très connu aux États-Unis. Alors je vais faire une confidence, je vais faire un aveu. J'ai quitté la France en 2002 et je ne me...
je me tiens pas au courant de ce qui se passe au niveau télévisuel. Je suis passé complètement à côté. Bon. Tout ce qui est post 2002, je connais pas.
Bon, alors c'est comme tu veux, c'est-à-dire que soit on te dépose ici, soit tu finis l'émission avec nous pour les recommandations. Si tu as une recommandation, même littéraire, ciné d'ailleurs, tu peux rester.
J'ai une recommandation musique, c'est possible ça?
Eh ben écoute, bah, oui. Y a pas de souci. Alors on va mettre un petit jingle. Tiens d'ailleurs, le jingle c'est toujours bière américaine. C'est, je pense, vous allez me dire, hein, après avoir entendu ce qui va se passer, la plus grosse contribution de Budweiser à la culture européenne. C'est parti.
Ouf, ça fait peur, hein, j'ai peur.
Hello. Hey, who? What's up? Nothing, B. Just watching the game, having a bud. What's up with you?
Nothing. Watching the game, having a bud.
True. True.
What's up? What's up?
Yo, who's that?
Yo, pick up the phone. Hello?
What's up?
What's up?
Je ne me rappelle même plus de l'année de ce truc, mais à l'époque, tout le monde criait ça.
Ici aussi, mais alors c'est vieux. Hein. C'est les grands-pères maintenant qui... tu te souviens quand on criait au hasard?
Je crois que c'était début des années 2000, hein, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Le petit interlude faut-il des auditeurs, Raphaël? On n'a pas eu énormément de suggestions, je crois, ces derniers temps. On fait un petit point. On a une émission sur le survivalisme qui est dans les tuyaux. On
Tout
peut l'annoncer,
fait.
Ce sera la prochaine. Mmh. Et on remercie d'ailleurs, on a un de nos auditeurs qui nous a contactés et qui va nous renseigner sur ce sujet. Et ça va être très, très intéressant. On rappelle, on avait quelques petites autres choses sur les réseaux sociaux, sur le télétravail. Tiens, oui, faut-il se mettre au télétravail? On avait mis ça.
En fait, c'est même plus une question, c'est devenu...
Ben, c'est ça. Comment se mettre au télétravail?
C'est ça, c'est là, je veux dire, à ce niveau-là...
Tiens, j'ai une suggestion, ça fait à chaque fois... Bon, je vais le dire maintenant, vous faites partie de mes podcasts que j'écoute régulièrement. À chaque fois qu'un nouvel épisode sort, je vous écoute. Je les ai tous écoutés. Il y a, à chaque fois, je veux vous parler, alors que je vous écoute, donc vous ne m'entendez pas. Mais je veux donner l'idée de faire une émission « Faut-il s'expatrier ?»
Ah, oui, vous mal, avez ça. Été plusieurs, ouais,
en
parlant.
Ouais, en plus, plusieurs personnes nous en ont parlé. Mmh. Ouais.
Non mais c'est vrai, et pour le coup c'est intéressant en plus de... Ça fait combien de temps t'as dit que t'étais à la Nouvelle-Orléans du coup?
2002.
Et alors, bon, sans spoiler, si on se retrouve pour ce thème-là, c'était pour des raisons pro, perso, ou une envie ou...
Ça me travaille, c'est un rêve de gamin en fait. Depuis que j'étais gamin, je regardais Tom Sawyer, j'écoutais... après que j'étais genre ado, j'écoutais du blues, du Delta du Mississippi, je regardais évidemment des films américains, tout ce qui est un salut aux potes de VHS et Canapé, tout ce qui est Stallone, etc., la culture américaine, le basket, j'étais fan de basket quand j'étais ado, donc toute cette culture américaine quand j'étais au collège, j'étais fan de hip-hop américain, et puis après je suis passé sur le rock, la country, etc. J'ai baigné là-dedans depuis que je suis gamin, donc c'est un rêve de gamin. J'ai eu cette opportunité en 2002, et ben je l'ai prise et j'y suis toujours. Voilà, je referais si c'était à refaire en deux secondes.
Bon, eh ben écoute, on rajoute à notre petite liste de sujets potentiels, on a notre petit Google Sheets partagé sur lequel on met nos annotations.
Ça y est.
On rajoute faut-il s'expatrier. Petit jingle et Raphaël va nous parler. Ouais, on va mettre Patrice à jour sur ce qui se passe dans le Honda Universe.
Ouais, c'est ça.
Alors, j'ai un doute. Patrice dit qu'il est parti en 2002. Est-ce qu'il y avait déjà fait entrer l'accusé à l'antenne? Oui. Ah, c'est peut-être un peu tôt.
Je me demande si c'était pas plus 2005-2008, mais j'ai un petit...
Je sais même pas si c'est la radio, si c'est la télé.
C'était une émission de télé de... C'est une émission de télé de faits divers où Christophe Ondelette, qui est un animateur, revenait sur des grands cas de tueurs, de...
Ok.
Voilà. Alors la première saison, c'était en 2000-2001.
Ah bah, c'est le podcast True Crime avant le podcast True Crime, quoi.
C'est un peu ça.
Oui,
c'est
un peu ça, ouais.
Alors, pour présenter, c'est bien parce que du coup, si on présentait à un Américain Christophe Ondelatte, Raphaël, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait qu'on écoute, donc aujourd'hui, Ondelatte raconte sur Europe 1 tous les jours et en podcast, parce que d'ailleurs, ils sont plutôt modernes, ils sortent le podcast avant la diffusion de l'émission maintenant. Et si tu veux, Patrice, la saveur de Christophe Ondelatte, ce sont surtout les imitations et les accents. parce qu'il est très... il n'hésite pas à donner de sa personne et parfois... disons que quand ça se passe dans le terroir, on le sent. Voilà. Il a pas peur d'y aller là-dessus, il a pas peur des accents. Et il... voilà. Donc c'est un peu notre petit plaisir là-dessus, c'est d'entendre Christophe Ondelat faire des accents. Parfois c'est borderline, hein, on va dire. Sur certains accents étrangers, ça peut être border.
C'est problématique un petit peu.
Ça peut. Hein, on a connu des accents japonais parfois un peu limite.
Ouais. C'est le Michel Lab moderne en fait, c'est ça que tu es en train de
bah,
dire.
Oui, mais avec un twist journalistique.
C'est ça, c'est ce qui fait que ça passe.
Et alors après on rigole, mais il raconte très très bien. C'est pas pour rien, c'est quand même le podcast, un des deux podcasts les plus téléchargés de France.
Et au passage, donc, le dentiste de mon père est le dentiste de Michel Lab.
D'accord. Voilà. D'accord.
Ah bah, comme quoi.
Là, vous m'obligez à frimer, là, vous faites exprès.
Raphaël, du coup, ta reco de la semaine.
Du coup, je me suis replongé dans un ancien numéro de Faites Entrer l'Accusé, disponible sur YouTube. Auriol 1981, c'est le titre du Faites Entrer l'Accusé. Donc, ça raconte comment un ancien chef local des Bouches-du-Rhône du SAC, donc le SAC, c'était le service action civique, qui était une association mise en place sous De Gaulle, d'hommes très dévoués à De Gaulle et à sa pensée, dont le but était de... allez, on va dire officiellement de propager la parole gaullienne, officieusement de taper du communiste, on va dire ça comme ça. Donc, était un chef local du SAC dans les Bouches-du-Rhône. Et en fait, lui et toute sa famille se sont fait massacrer par 6 autres hommes du SAC à Auriol en 81. Et c'est assez passionnant parce qu'en fait, il s'est fait massacrer parce que le parti local pensait qu'il allait révéler des dossiers à la gauche en 81, Mitterrand, tout ça. Donc, complot politique, il y a du drame, enfin voilà, c'est un peu toute cette ce qu'on aime bien parfois sortir juste du serial killer, mais rentrer plus dans les affaires politico-financières, macabres, enfin voilà, donc Auriol 81.
Et d'ailleurs, c'est l'occasion de préciser quand même à Patrice et à ceux qui ne connaissent pas, on rigole, mais par contre, Faites Entrer l'Accusé est une émission extrêmement factuelle et extrêmement bien foutue et pour le coup, là, 100% sérieuse. Et après, oui, on aime bien... la partie On de la raconte, c'est en pure radio et Faites Entrer l'Accusé, c'était en télé. Et donc, du coup, oui, On de la raconte, il y a un peu plus le côté... raconté et très joué et Faites Entrer l'Accusé par contre est très sérieux, et je précise, il y a moins d'inédits dont Ondelat raconte ces derniers temps parce que Christophe Ondelat a été opéré, et par contre on lui souhaite très sérieusement un bon rétablissement et un retour très vite sur les ondes, parce qu'encore une fois on apprécie quand même ce qu'il fait très sincèrement.
Alors ça se trouve comment tout ça pour des gens qui habitent pas en France par exemple?
YouTube, iTunes, Spotify, oui Spotify aussi, enfin toutes les plateformes, ça s'appelle Ondelat raconte.
Le dentiste dont je parlais tout à l'heure est aussi le dentiste de Patrick Hernandez, je frime un petit peu.
Ah ouais.
Ah ouais, non mais attends,
ouais,
ah
ouais.
C'est le dentiste des stars. Eh ben oui.
Je vais dire un truc horrible, mais il est encore vivant, Patrick Hernandez.
Eh bien apparemment oui, et il va chez le dentiste. Ouais,
d'accord, bon, c'est plutôt pas mal. les recos de l'émission, les recommandations. Bah écoute, on va laisser notre invité commencer. Alors, une petite reco musique, si j'ai bien compris.
Bah, c'est adorable, absolument oui. C'est l'album du mois pour moi. Je vais passer un petit bonjour à Benji, notre auditeur français qui habite en Suisse. Tiens, vous pourrez peut-être le contacter pour faut-il s'expatrier. Il en connaît un rayon. C'est l'album de Chris Stapleton, j'imagine que tu mettras ça dans les notes de l'émission. C'est un musicien américain, je crois qu'il est du Kentucky, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'en ai parlé l'autre jour dans l'émission. Et il a déménagé à Nashville au début des années 2000, et s'est lancé dans le monde d'être auteur-compositeur en fait, non pas interprète mais auteur-compositeur, être songwriter comme on dit ici. Et il a écrit tout un tas de chansons qui sont devenues des hits, mais c'est pas lui qui les chantait. Et il s'est lancé, je crois que c'est en 2015, oui, dans une carrière solo en 2015 avec un hit. Il a fait une reprise, mais c'était un morceau country des années 70 et qu'il a complètement relifté avec de la musique soul 60. C'est-à-dire qu'il a changé la musique, il a gardé les paroles, et ça s'appelle Tennessee Whiskey. Et je vous conseille ce morceau. C'est pas ma reco d'aujourd'hui, mais c'est pour parler un petit peu, replacer cet artiste. Et donc il a eu énormément de succès. Justin Timberlake était fan de lui. Ils ont chanté ce morceau en duo dans une remise de prix, un show de remise de prix aux États-Unis, je me rappelle plus lequel. Et ma recommandation de l'épisode, c'est son nouvel album qui s'appelle Starting Over et qui est un album absolument magnifique. C'est son quatrième album et il vient de sortir, je crois, il y a 15 jours. Et c'est absolument sublime. C'est enregistré par le même producteur qui l'enregistre depuis 4 albums. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être en studio, d'être assis à côté de lui. On entend vraiment... c'est une production humaine, quoi, parce que maintenant, en 2020, évidemment, tout le monde peut enregistrer des disques chez soi et on peut enregistrer avec un logiciel 50 parties de guitare, avec des parties de fausses batteries, etc. C'est à la portée de n'importe qui. Et ce que j'aime bien, c'est ce retour... un petit peu à la performance live en studio, en fait, comme dans les années 50-60, on a l'impression d'être dans le studio avec les musiciens et il y a une espèce de feeling qui passe. Et ce type a une voix, mais là, rien que d'en parler, j'ai les poils qui s'hérissent. Il a une voix absolument à tomber par terre. C'est un vocaliste de d'exception et c'est un très très bon auteur-compositeur. Et voilà, cet album est assez complet, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont contemplatifs, des morceaux qui sont... Il y a un morceau que j'ai réécouté tout à l'heure, qu'il a écrit pour son chien, apparemment qui est mort, et en l'honneur de son chien, et c'est vraiment très sympa. Il y a des morceaux qui sont un peu plus rock, un peu plus... Donc, il y a une espèce de palette dans cet album qui fait qu'on passe d'un morceau à l'autre, et c'est pas que triste ou c'est pas que rock'n'roll, il y a une espèce de... Voilà, de palette de style et d'ambiance, et tout ça est de très très haut niveau. Je rappelle son nom, Chris Stapleton, et l'album s'appelle Starting Over. Et si ça vous plaît, je vous conseille de taper dans ces trois albums précédents. C'est que du bon, c'est un gars absolument fantastique. Et voilà, c'est ma reco de la semaine.
Bon, Patrice qui parle aussi bien de musique que de bière.
c'est ma première passion avant la bière.
ça se sent clairement. Merci pour cette recommandation, Raphaël, c'est à toi.
Deux roco, mais une très très courte, juste pour rester dans le thème bière et tous ceux qui sont assez intéressés par ce qui se passe dans le monde brassicole, on va dire dans la scène française. Il y a un nouveau média, on va appeler ça comme ça, site internet en tout cas, qui s'est lancé, qui s'appelle Bière Actu, qui est aussi déployé sur les réseaux sociaux et qui est assez généraliste. Ça va aussi bien parler des nouvelles brasseries qui s'implantent que des derniers résultats de concours de jury. Enfin voilà, ça permet de suivre un peu tout ce qui se passe au niveau de la bière en France, les nouvelles lois de réglementation. Donc pour les gens très très intéressés par ça, c'est plutôt pas mal à suivre pour le coup. Donc voilà, ça c'était ma petite roco pour rester sur le thème. Et sinon, ma roco du moment, la vraie, c'est la série Succession, série d'HBO qui est disponible actuellement sur OCS. Alors j'ai pas encore fini la saison 2, la saison 3 pour le coup est en tournage je crois, même si avec la Covid, possiblement il y a un peu de retard. Donc Succession c'est quoi? C'est on suit la famille Roy, une famille américaine de milliardaires dont le père Logan Roy est à la tête d'un gros conglomérat de médias, de parcs de loisirs, tout ça. Et le père de famille a un AVC au début de première saison, a un AVC, il s'en remet, mais en gros l'idée c'est de les suivre dans tout ce qui s'annonce comme la phase de succession à la tête de l'entreprise, la succession au père. Et je trouve cette série absolument géniale, elle est rythmée, elle est cynique, les dialogues sont ciselés, il y a des punchlines dans tous les sens, enfin vraiment au niveau des dialogues c'est... ça fait longtemps que j'avais pas vu une série aussi prenante au niveau des dialogues, tout ça. Et tu suis ce monde de milliardaires, en plus forcément à notre époque, toute cette phase. En gros, l'histoire s'inspire visiblement un peu de la famille Murdoch, qui était propriétaire de beaucoup de tabloïds en Angleterre. Donc t'as aussi tout ce côté avec les fake news, les médias qui sont accusés de ce genre de médias qui sont accusés de mettre à mal la démocratie américaine, tout ça. Donc c'est hyper passionnant et donc voilà, je le recommande très très chaudement.
Ouais, il va falloir que je prenne un abonnement à OCS quand même, avec le nombre de trucs que tu recommandes sur OCS, il va falloir que je saute le pas. D'autant qu'ils ont Six Feet Under, je crois.
Ouais, exactement. Ils ont le catalogue HBO en fait.
Mmh. Et la première saison de True Detective a été tournée par ici aussi, se passe par chez nous. Donc, c'est absolument exceptionnel aussi.
Ah oui, ça,
ouais. Eh ben écoute, je vais rester sur les séries et je pense que Marocco va te faire plaisir, Raphaël. C'est The Americans. Qui est, je sais plus d'ailleurs, c'est une série FX, je crois.
FX, ouais.
Ouais, et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais souvenir d'avoir regardé un peu le début et d'avoir lâché, et en fait, je ne regarde que ça en ce moment. Donc, j'ai eu beau me creuser la tête pour trouver une reco. Je ne fais que regarder The Americans, j'en suis à la saison 6 en ce moment là, j'approche de la fin, mais ça fait 2-3 semaines que j'enquille tout, et c'est toujours aussi bien.
Je me rappelais absolument plus de rien, donc je ne sais pas, j'arrive pas à savoir. Je me rappelais de la saison 1, un peu de la 2, mais je sais pas pourquoi. J'étais persuadé d'en avoir vu plus et je redécouvre tout et c'est vraiment très très bien. C'est très prenant, c'est très très dur à lâcher. Donc je rappelle le pitch d'ailleurs hein, quand même pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc The American, c'est l'histoire de deux agents secrets, enfin de deux espions russes infiltrés aux États-Unis dans les années 80 sous la présidence Reagan et qui en fait ont été formés en Russie pour être de vrais Américains, donc ils ne parlent pas russe dans la maison, ils ne parlent qu'en anglais, ils n'ont absolument pas d'accent, ils sont totalement intégrés. Évidemment, un des twists, c'est dès le premier épisode que leur nouveau voisin d'en face est un agent du FBI qui évidemment travaille au contre-espionnage, donc ça va ajouter un peu de piment à tout ça. Mais encore une fois, c'est très très bien fait, ça replonge quand même dans une période de l'histoire qui est passionnante avec toute l'autre tension qui va avec. Ouais, voilà, et ça idéalise pas particulièrement le rôle des Américains ou des Russes. Je trouve ça assez assez propre dans le traitement en plus. Donc et avec des personnages attachants. J'ai même tendance, Raphaël, tu me diras, à trouver certains seconds rôles plus attachants que les premiers, au sens où j'ai beaucoup d'affection pour Oleg Burov et Martha.
Mais... Ah oui, bah forcément, parce que notamment Martha qui est sacrifiée de l'histoire.
C'est ça. Donc, sans spoiler la fin, mais la deuxième vie de Martha que je trouve assez passionnante.
Oh, non, mais là, vous en dites trop, les garçons. Là. Ouais.
C'est vrai. Mais,
superbe, ouais.
Mais voilà. Et j'aime bien ce bon Oleg. Je le trouve sympa.
Et d'ailleurs, les scènes qui se passent avec des Russes sont jouées en russe. Et ça, c'est pour une série, c'est assez rare pour être d'avoir les scènes dans un pays jouées en langue originale. Et...
Clairement. Et d'ailleurs, on voit un peu plus la Russie au fil des saisons, si je dis pas de bêtises.
Ouais, un tout petit peu
donc
plus.
C'est agréable aussi de varier un petit peu les intrigues. Donc voilà, The Americans pour la reco. Et c'est comme ça qu'on termine l'épisode 15 de Channel Random. Merci beaucoup Raphaël et merci énormément à Patrice d'avoir été notre invité pendant toute cette émission.
Eh ben merci à vous. C'était vraiment un honneur et un plaisir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites partie de mes podcasts. Go-to régulier que j'écoute à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. J'étais très flatté, très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui. Eh bien, écoutez Binous USA tous les mardis, c'est ma deuxième reco. Voilà, je fais un petit peu ma promo.
C'est ce que j'allais le rappeler. J'allais dire Binous USA, donc sur toutes les plateformes, sauf Spotify en ce moment, mais ça va se régler.
Allez. Alors sur Spotify, on nous trouve. Il faut juste un petit peu, il faut être un filou. Il faut aller sur le flux Podcut. Et on est dedans. Et donc voilà, c'est la façon de un petit peu de moyenner. Mais sinon, on est sur toutes les autres plateformes tous les mardis avec Stéphane, on boit une bière dans l'émission. Donc on la regarde, on la sent, on la goûte. Et puis après, on parle de conseils de voyage. Donc conseils de voyage pour les Européens qui viennent aux États-Unis, des choses à faire, à ne pas faire, etc. Des chocs culturels, des différences culturelles. Après nos recos, comme on vient de le faire. Et puis l'expression Cajun, parce qu'évidemment. La Louisiane fait partie de la francophonie depuis un an ou deux. Et donc, il y a des expressions cajun qui sont assez truculentes, assez différentes et très exotiques, j'imagine, pour vous. Et donc, voilà. Et puis, c'est la fin de l'émission. Et on se dit au revoir avec Stéphane, avec un binous très langoureux. Voilà. Et puis, c'est notre émission. On vous donne rendez-vous mardi prochain.
Juste, je conseille aux auditeurs un des derniers épisodes de mémoire, c'est un des derniers, sur la première bière russe que vous goûtez, une Baltic Porter. Avec, on parlait d'accent tout à l'heure, puis on parlait The Americans, comme ça fait le lien États-Unis-Russie, voilà. Et avec une imitation d'accent russe, à moitié aussi allemand de l'Est, qui était pas mal du tout à un moment par Stéphane, voilà, grand moment de rire.
C'était un désastre. Vous l'avez compris, on se prend pas au sérieux.
on recommande chaudement évidemment Binous USA. Moi, je t'avoue, hein, Patrice, que j'ai commencé à écouter que récemment, du coup, puisque ma conversion à la bière est récente. Mais c'est toujours un plaisir de vous écouter, bien évidemment. Et encore une fois, on te remercie d'être passé sur Twitter d'ailleurs, parce que j'allais donner les réseaux sociaux pour Channel Random, mais sur Twitter, vous êtes très présent. C'est @BinousUSA.
Oui, Binous USA, tout simplement. Instagram, pareil, Binous USA et Facebook. Étant donné qu'on est les seuls Binous USA, j'ai pu rafler tous les noms sur tous les réseaux et je suis très souvent sur Twitter. Si vous postez un truc sur Twitter dans le quart d'heure, en général, je le vois, à part si je dors. C'est que des fois, maintenant ça va un petit peu mieux, mais au début du podcast, je me faisais un petit peu tirer les oreilles par mon épouse. Pourquoi tu passes ton temps sur Twitter? Moi, j'existe. Mais donc voilà, ça va bien. Donc on est très actifs sur Twitter. Alors, je m'occupe des réseaux. Stéphane est réseauphobe, n'écoute pas de podcast et n'est pas sur les réseaux. C'est un petit peu un ermite des temps modernes. Mais voilà, on l'aime beaucoup et c'est ça qui fait un petit peu notre dynamique de l'émission, c'est qu'on est différents. Lui, il aime les bières anglaises traditionnelles et les lagers, etc. Et moi, j'aime tout ce qui est nouveau monde, fruité, moderne. Et donc voilà, on se retrouve un petit peu sur des choses comme ça. On se prend pas au sérieux, comme on dit tout à l'heure. On a une série qui s'appelle San Pellegrino, dans lequel on voyage dans ce pays magnifique qui est le San Pellegrino, cette île paradisiaque. Et on fait des petites pubs décalées pour notre label qui est Podcut. Voilà, on a plein de podcasts sur le label. Et donc voilà, on fait des petits sketchs, on se prend pas au sérieux, on fait des blagues à deux francs, des blagues carambars des fois, des jeux de mots un petit peu foireux, un petit peu douteux. Et puis voilà, c'est notre podcast, on s'amuse bien tous les mardis.
Et juste un dernier mot, tu as parlé d'Instagram, on peut voir du coup les bières peut-être que vous buvez sur l'Insta ?
Oui, alors, fut une période avant le virus, on buvait les bières et en direct je prenais la photo la bière en direct. Alors, quand c'est une bière qu'on peut avoir en plusieurs exemplaires, oui, je peux faire une photo avec la bière. Quand c'est quelque chose qu'on nous envoie une seule unité, on la boit dans l'émission. Bon, elle est déjà bu, je peux pas faire la séance photo et le podcast en même temps, mais en général oui, je mets la bouteille en tout cas.
Alors ça marche.
Je mets la bouteille toutes les semaines, tous les dimanches j'annonce la bière de la semaine suivante sur les réseaux et puis voilà, j'annonce ça en avance et puis ça roule.
Eh bien, encore merci, Patrice. On te retrouve donc tous les mardis dans Binous USA.
Merci à vous.
Beaucoup, Raphaël.
Merci.
Pour nous, donc, les réseaux sociaux, @serandompod sur Twitter et sur Facebook. Vous retrouvez aussi les épisodes sur le site internet touchdownactu.com qui fait du football américain, mais qui diffuse aussi l'émission. Et évidemment, on est sur toutes les plateformes de podcast et même sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous. À très bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.